Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Donc je voudrais ce matin vous proposer deux textes dans la Bible. Le premier texte se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Et le deuxième texte se trouve dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5 également. Matthieu, chapitre 5, et Galates, chapitre 5. Dans Matthieu, chapitre 5, c'est le fameux serment sur la montagne ou sur la colline. Ce sont les fameuses béatitudes dont tous, pour la plupart, vous avez entendu parler. Voyant la foule, dit le verset premier, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et ensuite le texte continue, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, etc., etc. Je voudrais, avant qu'on lise Galates 5, vous lire la version du français courant. Dans l'évangile de Matthieu, également, chapitre 5, donc dans la traduction français courante. Voici ce que nous lisons. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. Je répète. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont dans la tristesse, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu le demande, car Dieu le leur accordera pleinement. Heureux ceux qui ont pitié des autres, car Dieu aura pitié d'eux. Heureux ceux qui sont purs en leur cœur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume de Dieu, des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et mentent en disant toutes sortes de mal contre vous parce que vous êtes mes disciples. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet que l'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Et puis donc Galates, chapitre 5, Galates 5, à partir du verset 22, Galates 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la loi, n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Je redonne là la version également de français courant, Galates 5, verset 22. Voici ce que nous lisons. Mais que l'Esprit Saint produit, mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit Saint nous a donné la vie. Il faut donc aussi qu'il dirige notre conduite. Voilà, si vous voulez, un petit peu deux textes que j'aimerais rapidement commenter. Deux textes que j'aimerais commenter parce que je crois sincèrement qu'ils ont quelque chose à nous dire ce matin. Recommençons dans Matthieu chapitre 5. Je vais simplement faire un commentaire, mais que j'espère être pratique, très pratique. N'oubliez jamais que la vie chrétienne, si elle n'est pas pratique, si elle est simplement le résultat de bonnes intentions, si elle reste simplement à l'état de bonnes intentions, ça ne sert de rien. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions et nos bonnes intentions ne changent absolument en rien les choses si dans nos vies, nous ne concrétisons pas ces intentions par une attitude, par un comportement et par des actions concrètes. La foi sans l'action ne sert de rien, elle est morte, elle est inutile. J'ai parlé ces derniers temps, un dimanche matin, je crois que c'était à Pâques, j'avais parlé des ministères. J'avais rappelé les cinq ministères de base que l'Épître aux Éphésiens de l'apôtre Paul nous rappelle, que Dieu a établi des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et j'avais rappelé l'importance de ces ministères, de cette authenticité de vie. J'avais rappelé aussi la communication de vie que ces ministères devaient donner, apporter, mais aussi la solidité d'une Église, du corps de Christ, au travers de ces dons d'hommes faits par Christ à l'Église. J'avais dit que c'était Jésus qui donnait les ministères, que c'était Jésus qui choisissait et que c'était Jésus qui établissait, qui faisait des dons d'hommes à l'Église. Et puis nous avons vu un jeudi soir, à l'étude biblique, nous avons vu ensuite les dons du Saint-Esprit. Donc il y a les ministères et ensuite les dons du Saint-Esprit qui sont les manifestations du Saint-Esprit. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en nous. Je rappelle une chose importante pour qu'il n'y ait aucune erreur là non plus avec les personnes qui viennent peut-être d'horizons chrétiennes, même évangéliques différentes. Je rappelle qu'il y a une différence entre être né de nouveau et avoir reçu le Saint-Esprit en tant qu'Esprit de la troisième personne de la divinité, en tant qu'Esprit de force. Dieu est le Père éternel. Jésus est le Fils éternel, le Saint-Esprit est la puissance éternelle. Et il est important qu'après notre conversion, ou parallèlement, ou en même temps que dans notre conversion, nous expérimentions aussi en pratique la réception du Saint-Esprit en tant que puissance éternelle. Et malheureusement, on se rend compte que bien des chrétiens sont faibles, que bien des chrétiens, les exigences de la vie chrétienne sont pour eux un joug, parce qu'ils n'ont pas expérimenté cette effusion de la puissance éternelle du Saint-Esprit, ce baptême dans le Saint-Esprit, ce revêtement de puissance, cette plénitude de puissance qui va nous permettre, alors qui ouvre nos vies, à la manifestation de puissance de cet Esprit de puissance qui est venu habiter en nous. Les ministères sont des dons de Jésus à l'Église. Ce n'est pas vous ou moi qui pouvons choisir notre ministère. Jésus l'a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Il n'y a donc pas là, pas de course au ministère. On est appelé ou on n'est pas appelé. On est choisi ou on n'est pas choisi. Et on n'est pas choisi n'importe quel ministère. C'est Dieu qui crée ainsi le vouloir et le faire. Mais il y a ensuite donc par la réception de la puissance du Saint-Esprit en tant que puissance pour le témoignage et pour le service de Dieu, il y a alors les dons du Saint-Esprit qui sont tout simplement les instruments surnaturels de puissance pour nous aider, pour faire le travail, pour gagner les âmes, détruire les œuvres du diable, chasser les démons et guérir les maladies. Ce sont les manifestations du Saint-Esprit, les charismes, les dons de grâce du Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'on nous appelle chrétiens charismatiques ou pentecôtistes, comme vous le voulez. Mais j'aimerais ce matin parler du troisième aspect de la vie chrétienne. Nous avons vu les ministères, nous avons vu les manifestations de puissance que sont les dons du Saint-Esprit. Mais maintenant, il y a le fruit de l'Esprit qui est le caractère de Jésus en nous. Le fruit du Saint-Esprit, c'est le caractère de Jésus qui est inscrit en nous et qui doit se développer par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Le fruit de l'Esprit, c'est le caractère de Jésus en nous. C'est nous qui devons avoir le caractère de Jésus. Les dons du Saint-Esprit, c'est la puissance de Jésus. Et les ministères, ce sont donc des dons d'hommes pour amener l'Église à la stature parfaite de Christ, à ce que les chrétiens ne soient pas emportés à tout vent de doctrine, mais soient amenés à la maturité de la connaissance de la parole de Dieu et à la maturité de leur vocation, celle que Dieu a prévue pour leur vie. Donc, il est important, d'un côté, que j'ai le caractère de Jésus, mais le caractère de Jésus ne suffit pas, le fruit de l'Esprit ne suffit pas, parce que j'ai beau avoir l'amour, si cet amour n'est pas accompagné d'une puissance surnaturelle pour détruire les œuvres du diable, mon amour est inutile aux autres. C'est vrai que je suis quelqu'un de bien, peut-être spirituellement, mais je suis incapable d'être les autres. C'est pour cette raison que Jésus a dit à ses disciples, « Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père a promis. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, à Grenoble et jusqu'aux extrémités de la terre. » Tout cela, c'est la puissance. Donc, caractère, puissance et ministère. Mais chaque chrétien est un témoin de ce que Jésus a fait dans sa vie. Nous sommes tous appelés à être témoins et c'est la raison première pour laquelle le Seigneur nous baptise de son Saint-Esprit pour nous donner d'abord la liberté intérieure de parler, de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous. On peut être baptisé du Saint-Esprit sans d'abord faire des miracles. Mais la croissance dans la puissance se fait dans la mesure où nous gagnons des batailles sur le champ, où nous prenons des victoires sur les champs de bataille. C'est dans la mesure où j'arrive à lier l'homme fort dans ses attaques contre moi personnellement et que je triomphe de lui, c'est dans cette mesure que je reçois une onction de puissance supplémentaire pour alors délivrer les autres qui sont sous cet esclavage-là. Comment voulez-vous que je délivre quelqu'un? Je fais un peu la guerre actuellement aux jeunes pour la cigarette, je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que tout s'est arrêté. Comment voulez-vous dire à quelqu'un que vous voulez le délivrer si vous êtes esclave d'un bout de cigarette? C'est de la rigolade. Si le gars, il est intelligent, il vous envoie sur les fraises et il a raison. Vous ne pouvez pas vouloir libérer les autres si vous-même, vous êtes esclave. Et la vraie puissance ne vient pas parce que je parle en langue. Quoique le parler en langue peut m'aider dans l'édification et dans la plénitude. Mais la vraie puissance vient dans la mesure où je remporte des victoires sur les terrains où je suis attaqué, sur les terrains où le diable veut peut-être m'attaquer ou me tenir. Et c'est dans la mesure où je triomphe sur ma chair, dans la mesure où je triomphe dans mes pensées, dans la mesure où je triomphe dans ma volonté, dans la mesure où je triomphe dans mon corps, que je peux alors délivrer les autres dans leurs pensées, dans leur chair et dans leur corps. Malheureusement, l'Église est remplie de gens qui veulent toujours délivrer les autres, et qui sont des incapables dans leur vie, c'est évident, on le voit, incapables de se guérir eux-mêmes. Alors, je voudrais tout de suite, ce matin, bien mettre les pendules à l'heure, arrêtez de parler si vous êtes esclave. Arrêtez de témoigner si vous êtes esclave. Commencez à vous occuper de vous-même, et commençons à être libres pour pouvoir vraiment libérer les autres et être la bonne odeur de Christ. Ça, ils savent, ceux pour qui je parle, ils le savent, vous inquiétez pas. Bon, maintenant, on va être gentils. Maintenant, je voudrais parler de ce fruit de l'Esprit. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. » Et c'est là que je voudrais maintenant insister sur ce premier point. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. Si je traduis cela, malheureux ceux qui pensent être quelqu'un. Malheureux ceux qui pensent tout savoir. Malheureux ceux qui se considèrent même doctrinalement supérieurs aux autres. Malheureux ceux qui pensent réellement que c'est eux qui ont toute la vérité. Malheureux à ceux qui ont l'esprit de supériorité inconscient. Ça peut se refléter dans ma façon de prier. ça peut se refléter dans ma façon de vouloir imposer mes points de vue aux autres. Ça peut se refléter dans ma façon de vouloir faire ingurgiter aux autres ce que j'ai cru même en Dieu. Ça peut se résumer, ça peut aussi se manifester dans ma façon d'être exigeant envers les autres. Heureux ceux qui se savent pauvres en esprit. Et j'aimerais dire ce matin que c'est important. C'est important qu'au milieu de nous, notre vraie marque du caractère de Jésus en nous, ce soit cette humilité réelle, profonde, qui ne se permettra jamais de pointer le doigt sur les autres, qui aura ses convictions, qui aura ses certitudes, qui aura ses pensées, qui aura sa foi, qui l'explicitera, qui l'expliquera, mais qui jamais se permettra de vouloir imposer ça aux autres, parce que nous ne sommes pas les directeurs des autres, c'est Jésus qui est le directeur des cœurs. Notre rôle à nous, c'est de montrer la vérité, mais de ne jamais l'imposer. C'est pour cette raison que vous et moi, jusqu'à la fin de notre vie, nous resterons responsables de l'acceptation de la vérité ou du refus de notre vérité. Je dis cela parce que il est important que nous comprenions ce détail. Je crois que souvent, quand nous avons le zèle pour Dieu, quand nous voulons que nos vies marchent, quand nous voulons que les membres de nos familles marchent, quand nous voulons que l'Église marche, quand nous voulons que l'œuvre de Dieu marche, quand nous voulons que Jésus soit glorifié, alors, quand on voit peut-être le comportement des uns ou des autres, si nous aimerions tellement que ça change, alors si nous n'avons pas cette mentalité de Jésus, ce caractère de Jésus, qui est de se savoir pauvre par nous-mêmes, nous allons matraquer les autres. Nous allons imposer un poids sur les autres. Nous allons essayer de mettre en eux la réalité. Nous allons essayer de mettre en eux notre conviction. Peut-être que notre conviction est juste. Mais ce qui n'est pas juste, c'est que nous, nous voulons l'inscrire, alors que c'est la personne qui doit accepter cette vérité et accepter qu'elle s'inscrive. Vous savez, quand j'étais jeune prédicateur, je croyais toujours qu'en expliquant aux gens, quand ils auront compris, ça marchera. Et pendant des jours et des nuits, pendant des mois, j'expliquais, je prêchais, je faisais tout mon possible pour expliquer aux gens. Et un jour, j'ai découvert cette vérité ahurissante. Je venais de découvrir, ça m'a laissé baba, bouche bée, excusez-moi. C'est lorsque j'ai vu que des gens avaient compris. Moi, je croyais qu'ils ne comprenaient pas, mais ils avaient compris. Seulement, ils ne voulaient pas le faire. À partir de ce moment-là, je me sentais tout à fait dégagé. J'étais plus obligé, je ne voulais plus leur presser, parce qu'après, ça devient un joug, les gens ne supportent plus. Tu as vu, tu as compris, tu es responsable maintenant devant Dieu, tu acceptes ou tu refuses, c'est ta part. Mais moi, je suis dégagé. Et notre rôle à nous, chrétiens, c'est de convaincre les hommes, pas de leur imposer notre message. Pourquoi ? Parce qu'il est important, que vous et moi, il est important que les âmes qui viennent à l'Évangile acceptent librement par tout ce qui est le produit de la volonté des autres, tout ce qui n'est pas le produit d'une acceptation de soi-même, de la vérité que seul le Saint-Esprit peut réellement révéler, tout cela devient sectarisme, tout ça devient du légalisme. On peut obéir à toute la parole de Dieu sans avoir accepté ou compris ou réalisé la réalité de cette parole. Et ce n'est que l'illumination intérieure par le Saint-Esprit qui communique la vie de cette parole que je mets en pratique. Si j'obéis à quelque chose que je n'ai pas réalisé, c'est pour moi un joug littéral de la lettre. Mais si le Saint-Esprit illumine la valeur de cette lettre, alors elle est esprit et vie pour moi, et au moment où je l'accepte, elle s'inscrit en moi, elle devient puissance de vie. Au moment où je la refuse, à ce moment-là, je deviens responsable. Notre rôle à nous, c'est d'être des témoins, pas des gens qui embrigadent les autres. Cette liberté, si vous voulez, j'allais dire cette liberté que Dieu laisse à chaque être humain, cette liberté que Dieu vous laisse, que Dieu me laisse face à la vérité, ne doit être stoppé qu'au moment où la personne sait qu'elle fait mal, au moment où la personne sciemment désobéit. À ce moment-là, vous savez que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Lorsqu'il y a désobéissance volontaire, c'est à ce moment-là qu'il faut voir s'il y a une discipline à envisager. Mais nous n'avons jamais le droit d'imposer notre foi à quelqu'un d'autre s'il a une conviction différente. L'apôtre Paul dit: au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas et Dieu nous éclairera aussi là-dessus. Nous devons être en recherche de la lumière de Dieu. Et quand nous voyons des frères ou des sœurs ou des hommes ou des femmes qui sont là, peut-être pas au clair, une fois que nous avons parlé, nous devons prier pour que le Seigneur illumine notre parole, pour que le Seigneur illumine sa parole, pour que ces personnes aient une pleine persuasion, parce que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et il est important que nous réalisions que notre vie chrétienne doit être axée sur la puissance surnaturelle du Saint-Esprit pour que nos paroles soient esprit et vie et amènent l'illumination intérieure des cœurs auprès de ceux qui ont besoin soit du salut, soit d'avancer dans la plénitude de la vie éternelle. Alors, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Ce matin, quelle est votre attitude de cœur? Est-ce que vous êtes là, moi j'ai raison, et puis hein, c'est comme ça? Ou est-ce que vous respectez l'autre? Est-ce que vous respectez la personne de l'autre? Et la personne peut vivre même dans le péché. Vous savez, des fois, nous discutions entre les frères, avec les autres pasteurs, ils disaient, ouais, il faut intervenir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et c'est vrai, parfois, quand on est jeune, on voudrait intervenir. Mais je crois que ce texte dit être pauvre en esprit, eh bien, nous ne sommes pas les directeurs des cœurs des gens. Nous ne sommes pas les juges des cœurs des gens. Vous n'avez pas le droit de toucher un cœur. Notre rôle à nous, c'est de placer les gens devant la vérité, jusqu'à ce que eux, clairement, par leurs actions et par leurs décisions propres, acceptent ou refusent la vérité. À partir de ce moment-là, on peut intervenir non pas dans ce qui est dans leur cœur, ça ne nous regarde pas, mais dans l'action pratique qu'ils ont faite. Nous ne jugeons pas leur cœur, nous jugeons les actions qu'ils font. Mais ce qui est important, c'est l'esprit dans lequel leur action est faite, et c'est là que notre rôle à nous, c'est d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a donc une bataille sur l'intelligence. Vous ne pouvez pas forcer les gens, ce serait tragique, c'est ce qui se fait justement dans les sectes, lorsque le chrétien ou la chrétienne n'a plus la liberté de choisir, lorsqu'il est obligé de suivre, obligé de suivre, obligé de suivre. Il y a des obligations de suivre qui sont des obligations du cœur. Je sais que ma vie chrétienne est pour le service de Dieu. Si je ne veux pas servir Dieu, c'est que je ne suis pas chrétien. Il y a des éléments de base. Mais pour le reste, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Alors, je dis cela pour que quand les personnes viennent au milieu de nous, ils ne se sentent pas tout de suite. Oh, toi, pourquoi tu ne mets pas le voile? Boum! Oh, toi, pourquoi ceci? Oh, toi, pourquoi tu vas chez tel médecin? Oh, toi, pourquoi tu vas chez telle chose? Oh, toi, oh, toi, oh, toi. Et tout ça démontre que notre esprit n'est pas un esprit humble. Tout cela démontre que nous ne sommes malheureusement pas pauvres en esprit. Du doigté une âme, c'est cher. Vous savez, parfois on dit, ouais, il faut intervenir. Moi aussi, quand j'étais jeune, je parlais comme ça. Tu marches, tac. Tu marches pas, tac. Mais vous savez, quand vous avez lutté pendant des années pour gagner des âmes et que quelqu'un vous dit, il faut faire comme ça, il ne les a pas travaillé, il n'a pas gagné, il n'a pas sué, il n'a pas pleuré, il n'a pas prié. Il ne sait pas ce que c'est que la valeur d'une âme. Et si vous pouviez comprendre la valeur d'une âme dans le cœur de Jésus, on aurait beaucoup plus de respect quant à la liberté de choix de chaque croyant. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont dans la tristesse, car Dieu les consolera. Ça, c'est important aussi. Dans la tristesse, pas à cause de nos fautes, dans la tristesse, pas à cause de nos péchés, quoique c'est bien qu'on soit triste du mal qu'on a fait et qu'on demande pardon. Mais qu'est-ce que c'est que cette tristesse-là? Cette tristesse de voir le mal dans le monde. Cette tristesse de voir que les gens ne veulent pas de Dieu. Cette tristesse de voir que le monde est en rébellion contre Dieu. Cette tristesse de voir que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Cette tristesse de voir finalement peut-être la pauvreté justement, mais la mauvaise pauvreté du peuple de Dieu et des chrétiens. La tristesse de voir peut-être la mondanité qui entre dans une église. La tristesse de voir le peu d'authenticité réelle du peuple de Dieu, de voir peut-être le manque de puissance réelle du peuple de Dieu. Heureux ceux qui sont tristes parce que ce genre de tristesse vous pousse à la prière, vous pousse à l'intercession, vous pousse au combat spirituel, vous pousse à la marche en avant. Mais ceux qui ne sont jamais tristes de ces choses-là, vous pouvez leur demander de venir à la réunion de prière, ils ne sont jamais là. Ils ne sont pas tristes, ils sont heureux. Heureux ceux qui sont est heureux les affligés, car ils seront consolés. Le verset 5 dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui désirent avec ardeur, non plutôt le verset dit, heureux ceux qui sont doux, dit l'autre traduction, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Alors qu'est-ce que c'est que la douceur? Nous avons des tempéraments différents. Hein? Mais je voudrais rappeler que Jésus n'était pas une petite femme. Vous savez, Quand on parle de la douceur de Jésus, quand vous mettez, regardez les tableaux de Jésus, on dirait que Jésus était presque un homosexuel tellement on a un parfum. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il y a des gens qui disent, mais Jésus était, regardez, les homosexuels disent eux-mêmes que Jésus, la preuve que Jésus l'était, c'est qu'il avait un ami, Jean. C'est des blasphèmes incroyables. Mais ça vient parce qu'on a présenté un Jésus qui n'est pas le vrai Jésus. Comme je le disais l'autre jour, je voudrais vous rappeler que Jésus a fait un fouet dans le temple et ce n'était pas pour remplacer le ventilateur qui n'existait pas encore. Jésus a dit, pharisiens hypocrites, il leur a dit, il n'a pas seulement pensé, il n'a pas seulement prié pour leur hypocrisie, il leur a dit, race de vipères. Est-ce que vous vous rendez compte, le doux Jésus? Et qui oserait dire parmi nous que Jésus n'était pas doux? Donc c'est que notre notion de douceur n'est pas celle de la Bible. C'est que nous avons construit une douceur humaniste qui est purement humaine, qui est le produit de nos conceptions intellectuelles tirées d'une conception philosophique humaine, mais qui n'a rien à voir avec l'esprit de la Bible. La douceur de Jésus, c'est tout autre chose. Je vais vous dire ce que c'est que la douceur de Jésus. La douceur de Jésus, c'est d'être nous-mêmes, dans nos charismes, dans notre personnalité, mais en ayant un respect incroyable de la valeur de l'âme de l'autre. Un respect de l'autre. Sentez-vous l'âme de quelqu'un d'autre ce matin? Sentez-vous ce que c'est qu'une âme? Réalisez-vous ce que c'est ce qui est caché derrière l'apparence, derrière les attitudes, derrière le comportement, derrière les erreurs, derrière les fautes peut-être que vous voyez, mais sentez-vous ce qui bat derrière? C'est ça que Dieu voit. Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Est-ce que vous réalisez la valeur d'une âme? La douceur, ça peut être parfois très fort. La douceur peut parfois intervenir d'une façon très forte. Mais la douceur, c'est cette caractéristique, cette vie qui fera tout son possible pour arracher l'âme à la mort et lui faire tout le bien qu'il est possible de faire pour elle. Même s'il faut parfois, comme le chirurgien, donner un coup de bistouri pour que le malade soit guéri. La douceur, c'est l'amour d'une âme. Quel que soit son péché, quelle que soit sa situation, quel que soit sa... C'est, en un mot, avoir l'amour de Jésus. Pour une âme, pour une personne, pour le cœur qui est là, pour le besoin de ce cœur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu le demande, car Dieu le leur accordera pleinement. Heureux ceux qui ont faim. Mes frères et mes sœurs, si vous voulez vivre la plénitude de Dieu, si nous n'avons pas faim, ça ne viendra pas. C'est celui qui cherche qui reçoit. C'est celui qui frappe à qui l'on ouvre. Demandez, vous recevrez. Et je me suis rendu compte que mes moments où j'ai eu les expériences de la visitation de Dieu les plus fortes, c'est dans les moments où j'avais décidé de le chercher envers, malgré et contre tout. C'est dans la mesure où vous avez faim de Dieu que la réponse de Dieu va venir. C'est dans la mesure où vous désirez, que vous avez soif à outrance de Dieu que Dieu va venir. Peu soif, peu de manifestation. Grande soif, grande effusion du Saint-Esprit. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Ce matin, vous avez faim? Vous avez soif de Dieu? Puis-je dire en passant que la télévision, c'est l'été noir par excellence de la faim et de la soif de Dieu. Je m'en suis rendu compte personnellement. Vous savez, moi j'ai trois domaines fragiles. Les films de western, les films militaires et les romans policiers. Mais je me suis rendu compte que lorsque je me retrouve devant un écran, il suffit qu'il y ait un western, un film militaire ou un roman policier, je suis fichu. Je vais simplement vous dire, pour moi, quand je dois faire une prédication, quand je dois apporter un message, et que je regarde la télé avant, vous pouvez être sûr que ça va être le plus grand échec. Plus d'onction, plus d'inspiration, je ne sais plus quoi dire, sec, 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 la lettre, mais plus l'esprit. Actuellement, il y a, comment il s'appelle, David Wilkerson, vous savez, qui écrit une brochure, qui a écrit un livre, Sentinelle, et il met en garde, justement, il dénonce un petit peu tout ce qui se passe dans le peuple de Dieu, Et il dit que les chrétiens sont tellement liés maintenant qu'ils sont incapables de s'en passer, incapables de se passer de certaines choses. Ils sont coincés, fichus. Il dit, peuple, la preuve, vous voulez voir si vous êtes liés par la télé, si on vous l'enlève. Moi, je vous propose ici, on a beaucoup de besoin de télé pour la vidéocassette des enseignements. Propose, donnez-la nous. Aïe. Et mes émissions préférées, et mes émissions culturelles. Les arguments viennent. Et le temps que je passe devant la télé qui endort ma faim de Dieu et ma soif de Dieu. Frères et sœurs, rassurez-vous, gardez votre télé. Mais vous pouvez voir où vous en êtes. Et je voudrais dire ce matin que je ne peux pas avoir faim, je ne peux pas avoir soif, je ne peux pas vouloir être rassasié si je n'ai pas cette envie. Et nous devons tout faire pour créer cette envie en nous. Heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui ont soif, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Une autre version dit donc, heureux ceux qui ont pitié des autres, car Dieu aura pitié d'eux. Heureux ceux qui auront pitié des autres. Un jour, quelqu'un m'a dit, écoute Pierre, ça ne peut pas continuer. Si tu ne dis pas à cette personne, moi je le lui dirai. Je dis, mon petit vieux, si j'avais réagi avec toi, tu ne serais plus dans l'église aujourd'hui. Si j'avais réagi avec toi comme tu veux réagir avec cette personne, tu ne serais plus là. De côté. Vous avez remarqué que quand on pointe un doigt sur quelqu'un, il y en a trois autres qui se pointent sur nous. Regardez-moi. Un, deux, trois. Et le pouce, il les tient bien pour bien montrer que c'est vraiment vrai. Vous savez l'histoire de la paille et de la poutre, hein? Bien sûr, c'est toujours l'autre qui a la poutre, c'est nous qui avons la paille. C'est pour ça qu'il faut rester à sa place, ça nous évitera de porter des jugements qui ne nous reviennent pas. Donc, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et ça, c'est aussi un état de cœur. Ça, c'est une attitude de cœur. Ça doit être inscrit au fond de nous-mêmes, le respect, mais aussi la pitié de l'autre. Par exemple, quand quelqu'un chute, vous savez, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les chrétiens, vous savez, tout de suite, tout le monde le sait. Tel frère, oh, il est tombé. Tu sais, tu le dis à personne. Tac, tac, tac. Le ministère du frère est fichu. Tout le monde le sait, depuis la France jusqu'à Tizi Ouzou. Hein? Les chrétiens, quand ils reviennent après, n'osent plus les regarder. Ils n'osent plus regarder personne parce qu'ils savent ou ils pensent que tout le monde le sait. Et malheureusement, parfois, les gens le savent. On fera tout notre possible pour gagner des âmes perdues dans la boue du péché. Mais malheur aux chrétiens, le jour où ils se convertissent, ils tombent. Je ne dis pas qu'il faut encourager les chrétiens à tomber, ce n'est pas ce que je veux dire, attention. Mais je veux dire simplement, quelle est notre attitude de cœur? Qu'est-ce que c'est que notre amour? La théorie? Des belles paroles? Des belles louanges? Alléluia! Alléluia au Seigneur, hein? Ou est-ce que quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous faites quoi? Ça? Ou vous faites ça? Frères et sœurs, c'est le caractère de Jésus là. Heureux! La Bible dit heureux parce que, vous savez, je m'en suis rendu compte et je pense que les aînés s'en rendent compte. Quand les gens sont venus avec la femme accusée d'adultère, Jésus, à rire, Seigneur, hein, ils lui ont dit, maître, la loi nous ordonne de lapider une telle femme. Là, tout le monde est prêt à prendre les cailloux. Bon, Jésus dit, bon, Jésus écrit à terre et dit que le premier d'entre vous qui n'a jamais commis de péché, jette la première pierre. Et l'Évangile nous dit que ce sont les plus anciens qui ont commencé à partir. Vous savez, quand on est jeune, on pense toujours être mieux que les autres. On n'a pas le passé, on n'a pas l'expérience. On n'a pas les échecs que les autres ont, que nous, les aînés, on a déjà eu. Alors nous, on sait qu'entre la théorie et la pratique, hein, ce n'est pas évident. Et on serait très bien que celui qui est debout, qu'il prenne garde de tomber. Et je t'aimerais dire, mon ami, que tu sois homme ou femme, si tu es dur avec les autres, Dieu permettra que tu tombes dans ton problème. Et tu seras heureux à ce moment-là de trouver des frères et des sœurs qui exercent la miséricorde envers toi. Et puis vous avez ceux qui, boum, 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 puis le jour où ils tombent, ils trouvent qu'il n'y a pas d'amour dans l'église. Mais si tu ne trouves pas d'amour dans l'église, c'est que tu n'en as pas exercé avant. Frères et sœurs, heureux, heureux les miséricordieux. C'est la marque de Jésus. C'est la marque de Dieu. C'est notre marque à nous en tant que chrétiens. Heureux ceux qui ont pitié des autres, car Dieu aura pitié d'eux. J'aimerais vous le dire, jusqu'à la fin de notre vie, nous aurons besoin de la miséricorde et de la pitié de Dieu. Nous aurons besoin de la patience de Dieu. Heureux ceux qui sont purs en leur cœur. Notre version dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. J'aimerais vous dire, ce n'est pas seulement voir Dieu. Ce n'est pas seulement voir Dieu là-haut dans le ciel, dans l'éternité. C'est voir Dieu dans notre vie, maintenant, jour après jour. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, si en tant que chrétien, vous ne vivez pas la présence surnaturelle du Saint-Esprit, au travers du Saint-Esprit, de notre Père Céleste, dans votre vie, c'est qu'il faut loyalement se poser la question, est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que je n'ai pas fait naufrage quant à la conscience? Est-ce que je n'ai pas toléré tel ou tel péché dans ma vie? Est-ce que je n'ai pas toléré telle ou telle désobéissance dans ma vie? On peut ne pas commettre un péché par action, mais on peut commettre un péché par omission en refusant de faire ce que je devrais faire. Je ne comprends pas. Je n'ai pas la joie. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas libre. Mais ne cherche pas. Qu'est-ce que tu as fait? Ou qu'est-ce que tu n'as pas fait? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. J'aimerais dire ce matin que notre Dieu n'a pas changé. J'aimerais vous dire que les promesses de Dieu pour notre vie sont toujours actuelles. J'aimerais vous dire que Dieu se révèle. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, nous viendrons à lui. Notre mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. J'aimerais vous dire que par expérience, on peut connaître la visitation et la lumière et la présence de Dieu. Sinon, ça ne vaut pas la peine d'être chrétien. Mais Dieu est vivant. Dieu se révèle. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce matin, pose la question, avons-nous le cœur pur? Ça ne veut pas dire, est-ce que je suis parfait? Mais est-ce que j'ai fait la lumière entre ma vie, entre mon cœur et Dieu? Est-ce que j'ai dit au Seigneur ce que je devais lui dire? Est-ce que j'ai demandé pardon pour ce que je devais demander pardon? Est-ce que j'ai exercé ma foi là où je devais exercer ma foi? Est-ce que ce matin, mon cœur a de l'assurance devant Dieu? Heureux. Ceux, heureux celles qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et puis vous avez encore, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, dit l'autre version, car Dieu les appellera ses fils. Et là, vous avez aussi une vérité importante. Qu'est-ce que je rayonne autour de moi? Ne vous trompez pas. Qu'est-ce que vous rayonnez? Dites pas que vous aimez le Seigneur si les gens prennent 2 mètres de distance avec vous. Je racontais hier soir aux jeunes l'histoire des prix citron et prix orange, vous savez. À Cannes, quand j'étais pensionnaire au lycée, il y avait le festival chaque année, festival du cinéma. Et bien sûr, les médias, les journalistes, la télévision, tout le monde venait interviewer les acteurs et les actrices. Et à la fin du festival, les journalistes se réunissaient et décernaient le prix citron et le prix orange. Le prix orange était pour l'artiste qui était le plus coopérant avec la presse et le prix citron était pour l'artiste qui était le plus acide avec la presse. Alors imaginez le jour de la remise des diplômes, quand l'artiste savait qu'il avait le prix orange, j'étais très content, on amenait un grand chariot plein d'oranges. Et on lui donnait en disant que vous avez été l'artiste le plus coopérant, l'artiste le plus sympa avec la presse, toute la presse vous décerne le prix orange. Mais imaginez maintenant l'artiste qui va s'approcher à un chariot plein de citrons et qu'on lui dit, voilà, c'est pour vous le prix citron. Vous savez, les gens, ils étaient en colère. Mais ce matin, j'aimerais vous poser la question. Vous méritez quoi, le prix orange ou le prix citron? C'est quoi que vous avez? Vous êtes la personne acide, toujours? Pire que du vitriol quand on vous approche? Ou est-ce que ce matin, vous êtes venu? Venu ce matin avec votre voile? C'est quoi? Ne vous trompez pas, ne vous mentez pas. Ne vous mentez pas, vous avez besoin d'être guéri. N'essayez pas de guérir les autres, vous avez besoin d'être guéri. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux. Heureux ceux qui créent la paix. La marque du caractère de Jésus en nous, c'est de communiquer la paix. C'est pas de communiquer la critique. C'est pas de communiquer le jugement. C'est pas de communiquer la condamnation. C'est pas de communiquer un esprit de supériorité. Heureux ceux qui créent la paix. Je vous pose une question, si vous créez la paix dans votre famille, c'est facile de venir 2 heures dans l'église et de partir. Mais dans votre famille, ne vous trompez pas. Qu'est-ce que vous créez dans votre famille? Ne vous trompez pas, qu'est-ce que vous criez chez vous? Qu'est-ce que vous criez auprès de votre femme? Qu'est-ce que vous criez auprès de votre mari? Qu'est-ce que vous criez ou vous avez crié auprès de vos enfants? Qu'est-ce que vous avez crié? Ne vous trompez pas. Vous créez quoi? Vous engendrez quoi? Vous faites quoi? Vous donnez quoi? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on dit de vous en ce qui concerne la création de la paix? Vous dites, mais moi j'ai raison. Tu as raison peut-être dans ta guerre, mais le résultat c'est de la guerre, tu ne vaux rien. Tu n'as pas créé la paix autour de toi. Et tu es indigne d'être appelé fils ou fille de Dieu. Autant que cela dépend de nous, soyez en paix avec tous. Ça ne veut pas dire que nous n'avons jamais d'ennemis. Jésus a eu ses propres membres de sa famille parfois contre lui. Mais il a toujours, personne n'a jamais pu lui reprocher quoi que ce soit. Il a dit, qui d'entre vous me convaincra de péché? Peut-il y avoir des calomnies? Il peut y avoir des gens qui vous accusent des choses que vous n'avez jamais fait, vous n'avez jamais dit. Ça peut arriver. Mais vous, quand vous êtes là, il faut que l'atmosphère change. Vous savez, il y a parfois dans des moments, rencontre, parfois on arrive des gens qui discutent là, et puis quand vous arrivez, tout le monde se tait. Ça n'est jamais arrivé ça? Au début, je me disais, pourquoi ils se taisent quand j'arrive? Maintenant, je me dis, ils se sont tus, c'est qu'ils discutaient de quelque chose qui n'était pas clair. Et regardez en tant que chrétien dans votre lieu de travail. Hein? Quand vous arrivez, si vraiment vous êtes créateur de paix, les choses changent. L'atmosphère change, l'état d'esprit change, parce qu'en vous, il y a une puissance qui communique la paix. Frères et sœurs, le caractère de Jésus doit être le nôtre. Et quand les âmes nouvelles viennent, qu'est-ce qu'elles doivent sentir au milieu de nous? Qu'est-ce qu'elles sentent? Notre super spiritualité qui fait fuir tout le monde et qui chasse les gens? Ou est-ce qu'ils sentent réellement cet amour véritable, authentique, plein de bonté, plein de douceur, plein de cet esprit d'accueil qui procure la paix? Ça ne veut pas dire de la faiblesse. Je crois que parfois il faut intervenir. Qu'est-ce que nous rayonnons? Je vais aller vite maintenant. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et il y a toute la description. Lorsqu'on vous outragera, persécutera, dira faussement de vous toutes sortes de choses à cause de mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que notre comportement ne dépend pas du comportement des autres. Chacun d'entre nous, nous sommes responsables de notre propre attitude. Imaginez que je colle une gifle à Christian Murray. Il va me la rendre. Je sais pas s'il va me la rendre. Je sais pas s'il va me la rendre. Mais devant Dieu, il ne pourra jamais dire « Je l'ai rendu parce qu'il m'a giflé ». Jamais. Devant Dieu, il sera responsable de la gifle qu'il m'a donnée. Parce qu'il ne devait pas réagir comme ça. Vous ne pourrez jamais reprocher aux autres la cause de votre attitude parce que vous êtes responsable personnellement devant Dieu. Et c'est pour cette raison que la Bible dit que nous avons tous péché. Tous, il n'y a pas de juste parmi nous. Et quand vous critiquez les autres, vous êtes responsable parce que vous péchez. L'autre a peut-être ses torts, l'autre a peut-être mal fait. Mais vous, vous deviez surmonter le mal par le bien. Donc vous avez péché si vous ne l'avez pas fait. Frères et sœurs, heureux lorsqu'on vous outragera. Vous savez, il y a une croissance dans la maturité chrétienne. Et plus vous êtes amené à servir le Seigneur, plus vous verrez les ennemis. J'aimerais vous le dire, plus nous nous développons, plus ça va mal. Plus votre vie individuelle chrétienne se développe, plus vous aurez des adversaires. Plus vous apprendrez des choses qu'on aura dites, que vous n'avez jamais dites, qui sont complètement aberrantes, mais on les aura dites. Et ça passe de l'un à l'autre. Heureusement, de temps en temps, il y a des gens qui vont dire « Mais c'est vrai que tu as dit ça, c'est vrai que... » Je dis « Ils ont pioché ça. » Heureux, parce qu'il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Il faut, au contraire, dans toutes ces choses, réaliser que c'est pour nous une occasion de grandir dans la mort en Christ et dans la plénitude de la vie de résurrection par l'Esprit du Christ qui habite en nous. Alors, je vous pose cette question ce matin. Est-ce que vous êtes heureux quand on vous dit du mal de vous? Pas facile. Humainement, je ne sais pas si on y arriverait. Pas facile. Mais c'est pourtant, la vie chrétienne, c'est le caractère de Jésus. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Termine par Galates 5. C'est simple. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Frères et sœurs, 1 Corinthiens 13 dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je peux prophétiser. Vous savez, il y a tellement qui prophétisent. Je peux prophétiser. Je peux exercer les dons du Saint-Esprit. Si je n'ai pas l'amour des âmes, je ne suis rien. J'ai beau me persuader que j'ai tout, je ne suis rien du tout. Donc, il est important de comprendre la valeur de l'amour. Vous savez qu'il y a un merveilleux sandwich entre Corinthiens 12 et Corinthiens 13 et Corinthiens 14. La viande, c'est Corinthiens 13. Les deux morceaux de pain, c'est 12 et 14. Les dons du Saint-Esprit avec au milieu l'amour. Et on avale tout ça. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Il y en a qui disent, nous, on cherche le fruit de l'Esprit. D'autres disent, nous, on cherche les dons. À mon avis, le fruit de l'Esprit sans les dons, c'est inutile, ou très peu utile, et le don sans l'Esprit, alors là, ça fait de la catastrophe. C'est pour cette raison que je demande que les frères ou les sœurs qui n'ont pas une vie en ordre, soit dans leur comportement à la maison, soit dans leur habillement, soit qu'ils sont encore esclaves de passions élémentaires dont ils ne sont pas libérés, je leur demande de ne pas exercer les dons spirituels au milieu de nous. C'est tout simplement le respect de la maison de Dieu. Demande d'être honnête. Tu ne veux pas te libérer de telles passions, alors n'exerce pas non plus un don spirituel dans l'Église. Que Dieu te parle, tant mieux. Mais d'avoir le droit de parler dans l'Église, c'est autre chose. Parce que nous n'avons pas à galvauder le comportement du chrétien au milieu de nous. Frères et sœurs, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Mais un amour authentique, un amour vrai, qui n'est pas de la sentimentalité, qui laisse tout passer et qui détruit les autres. Par ma tolérance, je peux me laisser détruire tout le monde. Et on peut voir parfois toute une communauté détruite parce qu'on n'a pas eu la fermeté de réagir. On a pu parfois voir des familles détruites parce qu'il n'y a pas eu la fermeté. Une fausse conception de l'amour. Et je voudrais dire, en ce qui concerne la notion d'amour, encore ceci. N'oubliez jamais, prenez Moïse, prenez David, prenez Ésaü, prenez tant d'autres, Saül, prenez tant d'autres. Lorsque nous faisons des fautes, lorsque nous transgressons la voie de Dieu, lorsque nous repentons sincèrement, Dieu nous pardonne. Mais j'aimerais vous dire que la Bible prouve que nous supportons bien souvent les conséquences de nos actions. Ne pensez pas que parce que Dieu vous a pardonné, que Dieu va passer l'éponge. Ce n'est pas vrai. Il y a le pardon de Dieu, mais d'un autre côté, il y a l'autorité de Dieu sur notre vie. Et j'aimerais vous dire que Moïse, malgré son repentir, n'est jamais entré en Canaan. Ésaü, malgré ses larmes, n'a jamais pu avoir le droit d'aînesse. Et je pense qu'il y en a qui se fusillent à venir. Je ne dis pas pour le salut. Mais je dis pour les bénédictions de Dieu, pour le service de Dieu. Faites attention, frères et sœurs. On ne joue pas avec Dieu. Prenez David avec Bathsheba. Nathan le dit, Dieu te pardonne. D'accord, merci Seigneur. Mais il en a bavé toute sa vie après. On a créé un Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. Et je suis convaincu que beaucoup de chrétiens traînent des problèmes parce qu'ils ont traité à la légère Dieu ou une obéissance à Dieu. Maintenant, ils demandent l'imposition des mains ou l'onction d'huile et rien ne se passe. Ils disent qu'il n'y a plus de guérison, mais ils oublient peut-être qu'ils sont sous un jugement, une discipline de Dieu. Frères et sœurs, c'est quelque chose de terrible, c'est le Nouveau Testament qui le dit, c'est quelque chose de terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ne croyez pas que... Vous savez, un jour, on avait raconté dans une famille, une maman qui a gardé un gosse d'une famille. Puis ce gosse était très difficile. Et puis, à un moment donné, elle dit, écoute, si tu recommences, tu seras puni. Le gosse recommence. Elle dit, bon, tu seras puni, je ne sais pas la sanction qu'elle lui a fait. Le gosse est venu, 5 minutes après, il dit, je te demande pardon, tu me pardonnes? D'accord, je te pardonne. Est-ce que je peux revenir maintenant? Ah non, je t'ai pardonné. Mais la sanction, elle reste. Il ne comprenait pas le gosse. Comment? Mais tu m'as pardonné. Et le chrétien, il est comme ça. Seigneur, mais comment? Je t'ai demandé pardon. La parole dit, si je confesse mes péchés, tu es fidèle juste pour les pardonner. Seigneur, je suis pardonné, mais comment ça se fait? Mais oui, tu es pardonné. Mais tu es en train d'être discipliné. Tu portes la conséquence. Tu as semé quelque chose, maintenant il faut que ça lève dans ta vie. Ce que vous semez, vous le recevez. Mais Dieu ne le fait pas pour vous juger. Dieu ne le fait pas pour vous condamner. Dieu permet que nous portions les conséquences de nos actions pour que jamais plus on recommence et pour que deuxièmement notre caractère soit transformé. C'est pour cette raison que parfois vous rendez compte que vous avez fait des choses et que vous rendez compte que ça ne s'arrête pas, que les conséquences sont toujours là. Pendant tout un temps, nous sommes parfois obligés de porter les conséquences de nos actions, peut-être parfois pendant des mois. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a rejetés, ça veut dire tout simplement que Dieu nous fait toucher du doigt la conséquence de nos actions. Et on les porte. Si les chrétiens comprenaient cela, il y aurait beaucoup moins de gens légers, vous savez. Mais, avis aux amateurs, heureux ceux qui, Galates 5, pardon, j'en étais, heureux. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je vais simplement dire deux choses. La joie, la paix, la patience, la bonté. Après tout, c'est le fruit de l'esprit, c'est un seul fruit avec différentes facettes. Je voudrais vous poser la question ce matin. Est-ce que vous avez la joie? Tout à l'heure, j'en ai parlé. Heureux ceux qui procurent la paix, etc. Comment voulez-vous avoir la paix si vous... Comment voulez-vous procurer la paix si vous n'avez pas la paix en vous-même? Comment voulez-vous aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même? La paix, la joie. Mais c'est vrai, c'est formidable d'être chrétien. Vous savez, je suis convaincu que j'ai autant de luttes que vous. Au moins, je dis au moins, parce que vous connaîtriez les miennes, je ne sais pas si vous serez là ce matin. Mais je vous dis honnêtement, je ne vois pas pourquoi on n'a pas la joie. Je ne vois pas pourquoi on n'a pas la paix. Mais si je n'avais pas la paix, je lâcherais, ça ne peut pas poser, on ne peut pas tenir. Face aux pressions, face à la puissance, face aux besoins, face au combat, mais comment voulez-vous tenir si dans votre cœur, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence ne garde pas vos pensées en Jésus-Christ? Mais ce n'est pas possible. Mais j'aimerais vous dire que c'est réel, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est la nôtre. La paix, la joie, par le Saint-Esprit. Vous savez, l'autre jour, il y a quelques dimanches, là, j'étais le matin à la réunion de prière, et tout à coup, à un moment donné, je me suis senti appelé à prier en langue, Et puis, à un moment donné, je me rendais compte que Dieu me donnait l'interprétation de ce que j'étais en train de prier en langue. Et je réalisais que j'étais en train de demander à Dieu que ce culte ne soit pas le produit de nos actions, de notre voix, de notre sentiment, de nos bons sentiments humains, parce que pendant que je priais pour ça, je me rendais compte que réellement, combien moi-même, j'étais mélangé. La bonne volonté, mélangé avec une pureté du Saint-Esprit. Et je me rendais compte qu'il fallait que vraiment toute ma nature à moi soit mise de côté et que ce soit le Saint-Esprit qui vraiment remplisse mon corps pour que ma louange qui monte, mes paroles qui montent, soient tout à fait imprégnées du Saint-Esprit et qu'il n'y ait rien de ma nature charnelle. J'en étais arrivé tellement à prendre conscience de ce mélange qui était en moi que pendant que je priais en langue, là, et ça devenait de plus en plus fort, à ce moment-là, Dieu me l'a montré, et je pleurais comme un gosse, personne n'a rien vu, j'avais mis la tête dans les mains, mais je pleurais comme un gosse parce que je me rendais compte combien j'étais partagé. Frères et sœurs, la paix par l'action du Saint-Esprit. Quand on réalise qu'on est unis au Seigneur, quand on réalise qu'on est un, quand on réalise que nous apportons pas nous, notre camp, notre cantique, mais que c'est le Saint-Esprit qui a libre cours au travers de nos organes vocaux. Alors, mais surtout ceci encore, la bienveillance, j'en ai parlé, la patience et la maîtrise de soi. La patience. Patient. Je vais vous dire, peut-être dire ça pour nous les responsables. Vous savez que lorsque nous acceptons une place de responsable, ou lorsque nous acceptons une place, une responsabilité dans l'œuvre de Dieu, si nous ne sommes pas patients, si nous réagissons face au comportement des autres, nous sommes indignes d'avoir notre responsabilité. Parce que la marque de quelqu'un qui veut s'occuper des autres, c'est la patience. N'oubliez jamais que Jésus est patient avec nous. N'oubliez jamais que Jésus est patient, parce qu'il ne l'était pas, on ne serait pas là, ni vous ni moi. Et si nous voulons nous occuper des autres, c'est la patience, c'est pas se laisser aller à n'importe quelle réaction. C'est la patience de Dieu qui est la marque de Dieu dans notre vie. Patienter envers, malgré et contre tout. Il y a toujours un espoir. Avoir toujours un espoir pour quelqu'un. Avoir toujours un espoir pour l'œuvre de Dieu. Avoir toujours un espoir pour l'Église à laquelle j'appartiens. Avoir toujours un espoir pour la vision que Dieu m'a montrée. Persévérer, la patience, la persévérance qui se concrétise également par la maîtrise de soi. Ce matin, la maîtrise de soi. Je suis maître de moi-même, comme la cocotte minute, le couvercle. Puis si ça éclate pas ici, ça va éclater avec vos copains et vos copines, vos amis, à la maison. Vous voyez ce que ça veut dire? J'ai tout dit quand j'ai dit ça. Et c'est là. Et on le voit, vous savez. Pour ceux qui ont un peu de discernement, ils peuvent lire dans vos cœurs comme dans mon cœur, comme un livre ouvert. Vous savez, quand on voit quand vous êtes sous tension, des fois on arrive le dimanche matin. Bonjour, sœur.
Bonjour.
Puis vous avez l'autre. Ça va, père? Merveilleusement, ouais, il est plein de problèmes. Je ne dis pas ça pour me moquer, vraiment pas. Mais je veux simplement vous dire, nous avons tous nos problèmes. Ce n'est pas ce genre de maîtrise de soi que je veux parler. Ça, c'est... Je ne veux pas dire le nom. Ce n'est pas ça. La maîtrise de soi, c'est ne pas réagir face au mal. La maîtrise de soi, ce n'est pas se laisser aller à ses impulsions, ni à ses pensées, ni à ses élans, ni à sa vieille nature. La maîtrise de soi, c'est ne pas casser autour de soi. Ce n'est pas démolir, ce n'est pas peiner. Ce n'est pas réagir mal, c'est créer la paix, veiller à ce que rien de nous, de nos vies, de notre comportement, de nos attitudes, de la manière dont nous regardons, de la manière dont nous nous tenons, de la manière dont nous parlons, de la manière dont nous vivons dans l'Église. La maîtrise de soi, c'est faire tout notre possible toujours pour que nous soyons des enfants de paix. Dans nos foyers, à la maison, au travail, maîtrise de soi, c'est aussi triompher de tout ce qui nous tient encore. Tenir notre corps en bride, ainsi que notre langue. C'est tout un programme. Mais Dieu qui a commencé cette œuvre en nous, l'achèvera pour sa gloire. Amen. Convaincu? Mais est-ce que nous le désirons? Eh bien, vous le direz au Seigneur tout à l'heure à la Sainte Cène. Je demande au frère qui présente la Sainte Cène de venir. Et pendant que vous allez prendre la Sainte Cène, réfléchissez-y. Nourrissez-vous de Jésus ce matin. Nourrissez-vous de sa vie. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Merveilleux, vous savez, la vie chrétienne. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce merveilleux privilège. Oh, tu nous aides les uns et les autres. Tu nous portes dans tes voies. Seigneur, avant de vouloir faire, tu nous rappelles que nous devons d'abord être. Nous devons être ce que nous faisons. Donne-nous de bien le réaliser, donne-nous de ne pas nous tromper, donne-nous aussi de lutter pour arriver. Seigneur, ne nous donne pas, ne nous permet pas que nous soyons découragés, mais que nous soyons vrais, vrais dans la foi, croyant que tout est possible à celui qui croit, croyant que nos lacunes, nos carences, nos échecs, tout ce qui, dans nos vies, peut-être ce matin, nous croyons que tout cela, Seigneur, n'est rien pour toi. C'est grand pour nous, mais c'est rien pour toi. Et notre foi veut saisir ce matin ta grâce, ta persévérance, ta patience, ta longanimité, ta douceur envers nous. Et que tout cela, à notre tour, Seigneur, nous voulons le refléter autour de nous. Aide-nous. Tu vois, nous avons tous, les uns comme les autres, et je me mets aussi dans le lot. Seigneur, nous avons tous des progrès à faire. Nous voulons y arriver, parce que c'est notre part. Et parce que nous voulons qu'un jour, Seigneur, nous puissions être heureux de nous trouver devant toi, pouvoir te regarder les yeux dans les yeux, sans avoir peur de rougir. Et Seigneur, nous jetterons à tes pieds notre couronne, parce que nous réaliserons alors pleinement que finalement, c'est toi qui as tout fait en nous. Nous te rendons grâce, Père, au nom de Jésus. Amen.